Studio Tamani, voici les informations en français.
À la mise en onde, Nouhoum Diré, mesdames, messieurs, bonjour, voici le titre de cette édition. Quelle solution à l'insécurité? Selon des spécialistes des questions sécuritaires, la réponse militaire seule ne suffit pas pour endiguer le fléau. À Bamako, comme dans les grandes villes du pays, il n'est pas rare de voir des tas d'ordures entassées dans les quartiers. Les spécialistes de la santé mettent en garde contre les conséquences sanitaires de cette situation. Dans la chronique Zoom sur d'aujourd'hui, nous parlons de l'avarice. Il est qualifié par beaucoup comme un vilain défaut. Adama Modou Aïdara nous en dira plus dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'insécurité au Mali reste une préoccupation majeure des populations au centre et au nord du pays. Récemment visée par des attaques terroristes, repoussée par l'armée, la situation sécuritaire dans ces zones s'est améliorée dans certains endroits. C'est du moins le constat fait par certains experts des questions sécuritaires dans l'émission Grand Dialogue de mardi dernier de Studio Tamani. Cependant, ils proposent des solutions pour une sortie de crise définitive.
La montée en puissance de l'armée est une réalité. C'est ce qu'affirme Baba Dakono, secrétaire exécutif à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Cependant, il souligne que la réponse militaire seule ne suffit pas pour endiguer la menace terroriste.
La réponse militaire à elle seule est insuffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée d'autres types de réponses, d'ordre sociologique, politique, économique, pour que véritablement et de façon durable, on puisse endiguer cette crise-là et que les offensives militaires puissent être inscrites dans la durée.
De son côté, Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel précise que les facteurs qui sont à l'origine de l'insécurité diffèrent d'une localité à une autre.
Si vous demandez aux populations dans Sango de vous décrire l'insécurité, vous posez la même question aux populations de Yuwaru, vous allez vous rendre compte que non seulement le type d'insécurité a muté, mais dans le même temps, les acteurs qui sous-tendent cette insécurité ont connu des changements profonds. D'où l'impérieuse nécessité d'avoir des réponses contextualisées et surtout circonstanciées.
La mutualisation des forces de tous les pays concernés par l'extrémisme violent est la seule réponse pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel, a ajouté Dr Tunkara.
Pendant ce temps, la ville de Menaka continue d'enregistrer des déplacés internes. À la date du 31 mars dernier, la ville a enregistré plus de 36 800 déplacés, soit 6 142 ménages répartis sur 23 sites. Ces chiffres ont été communiqués par le colonel-major Issa Tembine, gouverneur de la région. Ces personnes ont fui les affrontements entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le chef de l'exécutif régional précise par ailleurs que ces ménages sont actuellement assistés par des ONG et l'État malien. Écoutons colonel-major Issa Tembine, gouverneur de la région de Menaka.
Avec 3500 hommes, 3997 femmes, 14 464 filles et 12 688 garçons. Voilà ce qu'on a à la date du 31 mars 2023. Tous les jours qui ont été faits, il y a une augmentation, mais on prendra en compte ça au recensement prochain. Cette population vient de partout de la région, dans la région. Ils occupent des sites, c'est vrai, ils occupent des sites. Il est aussi bon de préciser que certains pays se trouvent à l'intérieur des familles d'accueil. Donc, ceux qui sont à l'intérieur des familles d'accueil, il est difficile de faire la différence entre les autochtones et les pays. Donc, dans ces chiffres-là, ceux qui sont à l'intérieur des familles d'accueil ne font pas partie. Les ONG sont là, ils sont en train de faire autant qu'ils peuvent, bien sûr, en appui à l'État.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Bamako, les transporteurs n'observeront pas de grève les 2, 3 et 4 mai prochains. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le Conseil malien des transporteurs routiers. Le CMTR dit ne pas se reconnaître dans le préavis de grève déposé par le collectif des fédérations des transporteurs routiers et chauffeurs du Mali. C'était au cours d'une conférence de presse tenue hier à Bamako. Difficile donc de dire à ce stade si les autres syndicats iront en grève. Ces derniers qui devaient être en négociation avec le gouvernement hier n'ont fait aucune communication à ce sujet. À Bamako, les dépôts d'ordures ménagères sont omniprésents pratiquement dans plusieurs quartiers. Cette situation peut causer d'énormes soucis de santé, indiquent des spécialistes de la santé. Les riverains se plaignent de cette situation et interpellent les autorités. Le reportage de Halima Yattara.
Au niveau de ces dépôts d'ordures de Konatébougou, en commune 1 de Bamako, les habitants sont partagés. Si certains pensent que ce dépôt anarchique est dû à l'incivisme, d'autres se sont résignés à vivre tout autour.
Ici, c'est le marché de Konatébougou. Les charretiers viennent déverser les ordures ici le soir. On a tout fait pour les en empêcher en vain.
Chacun fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas d'endroit précis pour déverser les ordures.
On n'en peut plus avec des odeurs nauséabondes.
Toutefois, les spécialistes de santé affirment que la mauvaise gestion de ces déchets à l'intérieur des grandes villes constitue un véritable problème de santé publique. Dr Salif Kone, spécialiste des maladies respiratoires au CHU du Poingy.
Ces déchets sont responsables de maladies environnementales qui sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, mais aussi les infections respiratoires aiguës. Et certaines populations, sinon certains individus, se permettent d'enflammer ces déchets pour les éliminer. Cette fumée qui est dégagée est responsable d'un certain nombre de symptômes respiratoires.
Alors, comment se protéger face à cette situation? Pour le médecin, cela nécessite une implication effective, non seulement des populations concernées, mais aussi les collectivités territoriales.
Reportage signé Halima Yattara. Autre sujet de ce journal, une trentaine de journalistes de plusieurs médias maliens ainsi que des correspondants de Studio Tamani prennent part depuis ce mercredi à une formation sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. Le thème choisi pour cette session est « Quel rôle pour les médias ?» Cette session de trois jours vise à promouvoir la bonne gouvernance, la citoyenneté et lutter contre la corruption. Elle est organisée par Studio Tamani en partenariat avec la coopération suisse Imirana Kilumaiga.
Bientôt, Studio Tamani va produire des informations sur la gouvernance et la lutte contre la corruption dans son programme. D'où l'intérêt de cette formation à l'endroit des journalistes pour discuter de contenu et les lignes directrices, a indiqué Martin Faye, représentant par intérim de la Fondation Hirondelle.
Et il est toujours bon de rappeler les lignes directrices de ces thématiques-là aux journalistes avant d'entamer quoi que ce soit en termes de production et également réfléchir sur les contenus. Parce que les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans bonne gouvernance.
Le rôle de journaliste dans la gouvernance et la lutte contre la corruption vise à alerter, informer, vulgariser et sensibiliser. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Sekou Diallo, vice-président de la coalition des organisations de la société civile sur la lutte contre la corruption et la pauvreté et formateur de cette session.
Et ce n'est que les journalistes qui peuvent jouer le plus grand rôle en sensibilisant, en amenant les communautés à changer de comportement. Parce que là, c'est quelque chose de très fondamental. Sans changement de comportement, il n'y a pas d'arrêt de la corruption.
Les participants attendent de cette session de formation de trois jours de meilleures techniques de lutte contre la corruption.
Actualité à l'intérieur du pays en quelques brèves. Quelques heures après le blocus sur la route de Bara par la population à cause de l'insécurité, une femme et son chauffeur ont été enlevés par des hommes armés non identifiés entre la dite localité et Nonia. C'était mardi dernier. Des sources locales rapportent qu'ils ont été retrouvés par les forces armées maliennes sains et saufs. Le même jour, un autre minibus en provenance d'Aoussa Foulane a été criblé de balles par des hommes armés non identifiés. L'attaque a fait un mort et trois blessés. Les mêmes sources indiquent que l'armée continue les patrouilles dans la zone de Bara. Le sac de 100 kg de 1000 coûte aujourd'hui 20 000 francs contre 26 250 francs au mois de janvier dernier. À Banka, selon des commerçants, les restrictions à l'exportation seraient à l'origine de cette baisse. Les consommateurs ont salué les efforts consentis par les autorités et leur demandent de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire. Le Zoom sur d'aujourd'hui s'intéresse à l'avarice, autrement dit les personnes avares. Adama Modouaïdera nous en parle dans sa chronique.
On ne mange pas son argent comme ça, hein? Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas dépenser. On peut être avare à ce point. Tant de phrases que les gens traités d'avares entendent en longueur de journée. Jolie qui vivait à l'étranger vient d'arriver. Restriction budgétaire. C'est ainsi qu'elle explique le fait qu'elle n'aime pas dépenser. Mon argent ne rentre pas dans tout. Et il faut que je calcule, poursuit-elle. C'est ce qu'on dit. Demander quelque chose à l'avare, c'est vouloir creuser un puits dans la mer. Et pourtant, Jolie aime bien les belles choses. Mais elle tient tellement à économiser son argent qu'elle renonce même au confort de base et face à certaines nécessités. Comme le disent les sages, l'avare crierait famine même sur un tas de blé. Mais il faut aussi le dire, il y a des gens généreux contrairement à Jolie. Des personnes prêtes à sortir l'argent sans calculer. L'homme généreux invente même des raisons de donner, dit-on. Mais dans la société, les généreux sont souvent traités de personnes bêtes. Il ne sait pas dire non. Il est bête dès qu'on lui demande, il donne, s'exclament certains.
Et c'est cette chronique d'Anama Amadou Aïdra qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo. Mise en onde de Nouhoum Djiré, tout de suite Juliette Koulibaly sera là pour le journal en Bamanankan. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Chaque année, des milliers de personnes décèdent par an au Mali. Par conséquent, des millions de personnes sont dans la douleur. D'ailleurs, certaines disent traverser difficilement cette épreuve. Alors, comment continuer à vivre après la perte d'un être cher? Les psychologues estiment que cette période de souffrance peut entraîner du chagrin et de la dépression. Sur le plan spirituel, les religieux exhortent à la prière et à garder la foi. Dans ce magazine, Santé, ces derniers donnent des astuces pour surmonter le deuil. C'est une réalisation de Khalifa Goïta.
Le deuil. Beaucoup de personnes ont vécu et vivent ces épreuves dans leur vie. Et chacun réagit différemment à cette transition, comme témoignent des citoyens Ayroso et Sikasso.
J'ai perdu ma maman en 2021. Elle a laissé un grand vide. C'est toujours un choc. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à oublier ma maman.
La perte d'un être dépasse la connaissance de l'homme et il n'y a pas de remède.
Je me dis toujours que la personne est en voyage. Or, je sais bien que ce n'est pas possible et ce n'est pas facile.
En 2014, moi, j'ai perdu deux êtres chers, un grand frère et puis mon papa, dans un intervalle de 6 mois. Mais disons que le traumatisme, bon, c'est quelque chose qu'on gère avec le temps, quoi.
Mais le décès d'une personne peut impacter sur la santé des membres de sa famille et même sur des individus de son environnement. Docteur Issa Guino, médecin-chef du CCRF de Kalabankoro.
Ce qu'on dit vraiment en bambara, pour adjudicar là. Le adjudicar là, ça peut provoquer quoi en matière de santé? Ça peut provoquer des angoisses. Quand la personne a un problème cardiaque, ça peut aggraver son problème cardiaque. Surtout si la personne aussi a une hypertension. Cette personne peut aussi tomber malade jusqu'à l'hospitalisation. Nous avons vu des cas où une personne décède et la personne qui est directement liée au défunt meurt dans les 24 ou 112 heures. Ça, c'est dû au stress. Ça peut même provoquer même des AVC, des arrêts cardiaques. Une personne qui est affectée, vous voyez souvent, vous pensez le trouver assis. La personne va rester pensive.
La période de deuil est un événement traumatisant pour certains. La thérapie occupe une place importante pour supporter le processus de deuil. Les psychologues citent des méthodes appelées thérapie cognitive et comportementale TTC. Elles les permettent d'assurer une prise en charge émotionnelle et psychique de la personne endeuillée. Docteur Abdraman El Hadji Touré, psychologue.
Ça traumatise souvent, surtout que si ça se fait dans un contexte particulier où on est trop attaché à la personne, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite un soutien. Souvent, la personne peut perdre carrément sa personnalité dans la société. Donc, un problème de socialisation. Quand nous remarquons tout cela, nous essayons de faire ce qu'on appelle la TCC. C'est une technique qui permet de changer non seulement le comportement du point de vue émotionnel, etc. Il y a des gens, tant qu'ils ne pleurent pas, ils ne sont pas satisfaits. Ça fait partie aussi de la thérapie, parce que souvent, il faut laisser extérioriser les émotions, la colère, la tristesse, il y a le climat familial aussi, ça joue un rôle très important. Donc à ce niveau, l'endeuillé, il peut facilement récupérer.
Quel est le rôle de la religion dans ce processus funéraire? Des religieux estiment que ces moments de grande douleur doivent inspirer à garder la foi pour le développement spirituel. Tidiane Bari, imam Akai.
La mort d'un proche est dure, mais Dieu nous demande dans le Coran de remettre tout à lui, dans les bons et mauvais jours. Dieu dit aussi de garder la foi, d'être humble, ne prononcer aucune mauvaise parole. Cela est très important.
Le pasteur Tade Diarra de l'église évangélique poursuit que le deuil concerne tout le monde, un jour ou l'autre, car nul ne peut empêcher la mort. Pour cela, il prône la prière en faveur de la personne décédée. Sur ce, paix à l'âme de tous les disparus.